Chapitre 8. Le lendemain de ce jour, Florita suivit jusqu'au cimetière la dépouille mortelle d'Antoine Barbou, le petit soldat mort pour la France. Anna, trop occupée près de sa maîtresse, n'avait pu l'accompagner aujourd'hui. Elle profita de cette liberté relative pour entrer au presbytère afin de causer quelques instants avec Caroline Dussault. Elle voulait se faire donner quelques renseignements sur le pays, car l'idée de s'enfuir s'implantait de plus en plus chez elle depuis qu'elle savait qu'une mort peut-être prochaine allait enlever Madame Mulbar. Le curé, à qui elle en avait fait la confidence, lui avait conseillé de s'adresser à Caroline. Née dans le pays, fille d'un petit marchand ambulant qui parcourait autrefois avec elle toute cette contrée du Nord, l'ex-servante de Vanel en connaissait les moindres détours et pouvait, mieux que personne, renseigner efficacement Florita. « Confiez-vous à elle sans crainte, » avait ajouté le prêtre. « Cette femme est l'honnêteté, la droiture même, et personne ne peut vous être plus utile pour le projet que vous méditez. Projet irréalisable, néanmoins, je le crains bien, ma pauvre enfant. Vous ne pouvez d'abord le mettre seul à exécution, puis même, eussiez-vous des compagnons sûrs, quel danger sans nombre vous guetterait, avant que vous puissiez atteindre les lignes françaises. » Caroline, quand elle fut au courant, se montra du même avis que le curé. « Pour tenter cela, mademoiselle, il faudrait vous trouver dans une situation à vous dire « je joue le tout pour le tout », c'est-à-dire que le danger couru, en restant, soit pire ou tout au moins égal à ceux qui vous attendraient dans votre fuite. C'est peut-être bien ce qui arrivera. En ce cas, il faudrait essayer, mais si vous vous décidiez, mademoiselle, je m'offre à vous servir de guide. Sans en avoir l'air, je suis encore robuste malgré mon âge. Je peux marcher longtemps, et puis je connais tous les petits chemins. » Florita dit avec émotion, « Je vous remercie de cette offre généreuse, mais je ne voudrais jamais vous entraîner dans cette périlleuse aventure. » La femme eut un geste d'insouciance, tandis qu'une ombre douloureuse descendait sur son regard. « Ah, qu'importe, mademoiselle, ma vie à moi est finie maintenant. Si je la perds en rendant service à une gentille Française comme vous, ce sera une de mes dernières consolations. Oui, qu'est-ce que cela me fait qu'il me prenne, qu'il me fusille, comme mon pauvre Adolphe? J'irai le retrouver, voilà tout. N'hésitez pas à user de moi, je vous assure, mademoiselle, au cas où vous vous décideriez à brûler la politesse aux boches. Vous n'avez qu'à me faire signe, par l'entremise de monsieur le curé. En un moment, je serai prête. » Florita serra les mains de l'excellente femme, toute disposée à se dévouer avec tant de simplicité pour une étrangère. « Merci, merci, je réfléchirai. D'ailleurs, tant que ma tante est malade, je ne puis songer à partir. » Mais si elle venait à mourir, c'est alors qu'il me faudrait prendre une décision immédiate. Florita quitta le presbytère, un peu réconfortée par la pensée qu'elle trouverait chez cette bonne Caroline une aide efficace. L'ancienne servante s'étant offerte à l'accompagner jusqu'à Vanel, la jeune fille accepta, satisfaite, d'avoir un chaperon en cas de rencontre avec des officiers ou soldats allemands. Sur la route, une voiture d'ambulance les dépassa. Florita fit observer. « On amène sans doute des blessés au château. Il paraît qu'il y en a beaucoup ces jours-ci. »« Oui, on dit que les Boches ont attaqué. Naturellement, ils prétendent être vainqueurs. Mais la nièce de monsieur le curé, qui comprend assez bien l'allemand, a entendu la conversation de deux officiers, qui s'avouaient entre eux avoir reçu une bonne frottée. Ah, quand viendront-ils nous délivrer, nos Français? Quand connaîtront-ils à leur tour ce que c'est que l'invasion, ces maudits ?» À la grille de Vanel, Florita prit congé de la vieille femme et monta l'allée qui conduisait au château. Dans la cour, la voiture était là encore, mais vide. Les blessés avaient été déjà transportés à l'intérieur. Florita demanda à l'un des pensionnaires de l'ambulance qu'elle rencontra au passage. « Y en a-t-il de gravement atteints parmi ceux qui viennent d'arriver ?» Le soldat, un jeune Polonais blond à l'air songeur que sa nationalité rendait sympathique à mademoiselle de Valserre, enleva la pipe de sa bouche et répondit. « Je crois que oui, mademoiselle. J'ai vu qu'on en transportait plusieurs sur la civière. » En baissant un peu la voix, il ajouta, « Il paraît qu'il y a deux Français, dont un officier. » Le cœur de Florita se serra. Encore des compatriotes qu'elle verrait souffrir dans cette atmosphère ennemie. Tout à l'heure, elle irait voir ces nouveaux venus, pour leur apporter une parole de réconfort, leur apprendre qu'une Française était là. Mais la jeune fille ne put mettre ce soir-là son projet à exécution. Madame Mulbar eut une nouvelle syncope, dont le major appelait en hâte, la sortit difficilement. Il confia à Florita en la quittant, « Je crains qu'à un nouvel accident de ce genre ce soit fini. Monsieur Mulbar est retourné à Lille?
Oui, il est parti ce matin. Faudrait-il le prévenir?
Informez-le tout au moins de ce qui vient de se produire et de l'imminence d'une issue fatale.
À demain, mademoiselle. Si vous avez besoin de moi, faites-moi avertir. Maintenant, je vais vite à mes nouveaux blessés. J'ai deux amputations à faire. Un de vos compatriotes, entre autres, un jeune capitaine dont le bras en très mauvais état nécessite une prompte intervention. Il quitta la jeune fille avec un obséquieux salut, et Florita retourna près de sa tante. La malade était couchée dans le grand lit en pierre de la comtesse de Ronchais. Anna, penchée vers elle, nattait ses brillants cheveux noirs qui faisaient paraître plus blême son visage altéré. D'une voix faible, Madame Mulbar ordonna. « Laissez, Anna. Je n'ai plus besoin de rien. Merci bien. » La femme de chambre s'éloigna, tandis que Florita s'asseyait près de sa tante. Pépita posa une main glacée sur les cheveux de la jeune fille. « Eh bien, Florie, que t'a-t-il dit, ce major? Combien de jours, ou d'heures, ai-je encore à vivre? Même ma tante, il n'en sait rien. Personne ne peut le savoir. Il est toujours bon, naturellement, d'être prête, mais vous pouvez très bien surmonter cette crise fâcheuse. Non, je sens en moi quelque chose qui m'avertit que la fin est proche, et en même temps, il me semble que mes yeux s'ouvrent, que je vois toute ma vie sous un aspect nouveau. » Elle frissonna, en appuyant un peu plus sa main sur la tête de Florita. « Tu ne sais pas ce que c'est, toi, Florie, que d'avoir marché pendant des années comme une aveugle volontaire, dans des voies mauvaises, et puis tout d'un coup de voir l'énorme amas de tes fautes. Tante Pépita, je n'imagine pas que vous soyez une si grande coupable, mais vous savez bien que Dieu est tout prêt à vous pardonner si vous vous repentez. » Madame Mulbar répéta en scandant les mots. « Tu ne crois pas que je sois une grande coupable? Eh bien, écoute. » Florita voulut l'interrompre. « Tante, ce n'est pas à moi qu'il faut. Une confession n'empêchera pas l'autre. Et d'ailleurs, à toi, je ne puis dire tout. Mais je tiens par expiation à ce que tu saches ce que j'ai été. » Mariée très jeune à Otto, fort éprise de lui, en outre dépourvue de solides principes, je me suis trouvée aussitôt annihilée par cette volonté supérieure à la mienne. Or, il était, dès ce moment-là, un pan-germaniste ardent, non un exalté, mais un fanatique à la manière raisonnée, méthodique, comme il y en a beaucoup là-bas. Il me pétrit à son image comme une cire molle. Il me rendit presque aussi dévoué que lui à cette idée de l'hégémonie allemande, par tous les moyens, qui aboutit à l'épouvantable chose que nous vivons aujourd'hui. Je fus sa confidente, je connus tous les rouages de l'œuvre d'espionnage, dont il était l'un des agents les plus actifs. Florita dit d'une voix étouffée. « Lui ? Lui ? Oui, ma pauvre petite, c'est à cela qu'il s'occupait en France, lui et bien d'autres, et moi je l'aidais de tout mon pouvoir. » Florita eut un mouvement de recul, un geste d'horreur. « Ah, c'est affreux !» Pépita supplia. « Ne me maîtrise pas trop, enfant, j'aurais pu ne rien te dire. Mais tu vois, au contraire, je m'accuse. Et puis je veux que tu te défies de lui, d'Otto. Il veut te faire épouser le baron de Reichensfeld, à tout prix, pour faire de toi une Allemande. Et cela, il ne le faut pas, jamais, jamais, Florie. Ah, vous n'avez pas besoin de me le dire, plutôt la mort, plutôt les pires tortures. » Pépita dit d'une voix haletante. Ils ne reculeront devant rien, je le crains. Il faudrait que tu puisses fuir. J'y ai pensé, j'aime mieux risquer cela. Quelqu'un m'aidera. Oui, tâche, tâche, Otto tient à ce mariage. Quelle torture pour moi de voir aujourd'hui, à la lumière de la mort toute proche, s'écrouler tout le prestige qu'il exerçait sur moi. Mon cœur est déchiré, Florie. C'est que je l'ai tant aimé, cet Otto. Je l'ai si bien placé toujours sur un piédestal. Il est ma conscience, il me dominait, et il y a peu de temps encore, je repoussais de toutes mes forces le remords qui me torturait, parce que je ne voulais pas le reconnaître coupable. Je cédais à toutes ses exigences, comme lorsqu'il s'est agi de nous installer ici, afin que tu te trouves en rapport avec monsieur de Reichensfeld. « Quoi, ma tante, vous acceptiez ?» Pépita baissa les yeux, sous le regard de Florita, où la pitié se mêlait d'un peu d'indignation. « Il m'avait pris ma volonté, te dis-je. Ce n'est qu'en ces derniers jours qu'enfin je n'ai plus fermé les yeux à la lumière. Mon enfant, il faut que tu trouves un moyen de ne pas rester sous l'autorité d'Otto après ma mort. Sans cela, tu es perdu. » Florita frissonna en rencontrant le regard d'angoisse de sa tante. Madame Mulbar poursuivit de sa voix haletante. « Il est quelqu'un dont tu devras te défier encore si tu parviens à sortir d'ici. Qui donc, ma tante ? Elsa.
Elsa ? Pourquoi cela ? Parce qu'elle te hait. Par exemple, que lui ai-je fait ?
Tu es aimée d'Alain de Pinvalas, dont elle a été et dont elle est toujours sans doute passionnément éprise.
Alain ?
Oui, Alain, qui, je l'ai compris, a toujours repoussé les avances qu'elle a eu l'audace de lui faire. Cela, elle ne le lui a jamais pardonné. Et c'est à toi surtout qu'elle en veut, Florie. Prends garde, car c'est une femme habile, dangereuse, et qui, elle non plus, ne reculera devant rien pour satisfaire sa vengeance. Mais je veux te donner un moyen de la tenir, de répondre aux menaces qu'elle pourrait te faire par d'autres menaces. »
Pépita s'interrompit un moment oppressée. La jeune fille lui prit la main en disant avec douceur
« Ne vous fatiguez pas, tante Pépita, vous me parlerez encore un peu plus tard. »«
Non, on ne sait ce qui peut arriver, je veux finir. Florie, tu crois, vous croyez tous qu'Elsa, que son père était suisse. Eh bien, voici la vérité. Le soi-disant Walter Uffel s'appelait en réalité Oscar Strups. Il était allemand et cousin d'Otto et d'Ulrich. »
Florita eut une exclamation de stupeur.
« Comment ?
Mais les papiers, cependant. Voilà ce qui s'est passé. Oscar était fils de bons bourgeois de Francfort. Il fit d'excellentes études, et l'avenir semblait s'annoncer assez brillant. Mais il était dépensier, noceur, et surtout joueur. Ayant hérité vers 25 ans de ses parents morts jeunes, il commença de dilapider cette fortune à ses rondelettes. Son mariage ne le rendit pas plus raisonnable. Après l'argent des parents, ce fut celui de la femme qui servit à satisfaire sa passion du jeu. Si bien qu'au moment où il devint veuf 6 ans plus tard, il ne lui restait que quelques milliers de marques et des dettes. Ce fut à cet instant critique, alors qu'il ne savait comment se retourner, qu'Otto vint lui offrir d'être l'un de ces innombrables agents d'espionnage répandus par l'Allemagne dans le monde entier. Il accepta aussitôt et partit pour la Suisse avec des instructions précises. Or, un jour, passant à pied dans un sentier de montagne, il trouva les cadavres d'un homme et d'une petite fille de 6 à 7 ans. Après examen, il constata que l'homme avait dû tuer l'enfant d'un coup de revolver et ensuite diriger l'arme contre lui. D'après les papiers trouvés sur cet individu, Strups apprit qu'il se nommait Walter Uffel, habitant Zurich, que l'enfant était sa fille. Et jugeant que cela pouvait servir un jour, il les mit dans sa poche. Après quoi, il fit rouler dans un ravin profond les deux corps, dont, en admettant qu'on les découvrit jamais, on ne pourrait plus constater l'identité. Cela fait, il se rendit à Zurich, prit adroitement quelques renseignements au sujet de ce Uffel, et apprit avec satisfaction qu'il n'avait plus dans la contrée que des parents éloignés. Ses concitoyens le tenaient pour un pauvre être au cerveau détraqué par le chagrin que lui avait causé la mort de sa femme. Il était parti de Zurich un beau jour, emmenant sa petite fille, et depuis, on n'avait plus entendu parler d'eux. Ces circonstances arrangeaient fort Oscar Strups. Il pouvait ainsi, presque en toute sûreté, se donner un autre état civil pour la tâche que lui réservait en France le service d'espionnage. De fait, l'année suivante, il commençait de parcourir les campagnes françaises sous le nom de Walter Uffel. Et quand Hilda, sa fille, jusque-là élevée par sa nourrice en Allemagne, eut atteint sa 10e année, il l'emmena dans ses tournées, car il était bon père. Puis aussi, il rêvait de l'associer à ce rôle pour lequel il s'était pris d'une sorte de passion. Intelligente, rusée, orgueilleuse, mais sachant se faire très souple, cet enfant, écrivait-il à Otto, lui donnait les plus grands espoirs. Voilà comment, un jour, ils arrivèrent à Connestel. Ce devait être, pour le faux Uffel, la dernière étape sur terre. Le reste, tu le sais. Mais Hilda avait reçu les suprêmes recommandations de son père. Il lui enjoignait de faire son possible pour rester à Runesto, pour s'implanter dans cette famille française, pour épouser le marquis de Pinvalas. C'est donc une ennemie, une espionne que vous avez eue pendant des années à votre foyer, que madame de Pinvalas a fait élever soigneusement et a comblé de bienfaits. C'est une espionne allemande qu'a épousée Maurice de Ronchet. Ah, que notre instinctive défiance à Alain et à moi était bien justifiée. Oui, hélas. Et sais-tu encore ce que j'ai pensé au moment de l'attentat dont tu fus victime? C'est qu'elle était la complice de Reichensfeld, parraine pour toi, et que ce fut chez elle qu'il t'emmena.
Florita eut un sursaut d'indignation.
« Quoi, vous croyez ?
Je n'ai pas de certitude, un soupçon seulement. Mais en tout cas, je te le répète, elle est pour toi l'ennemi terrible, implacable, et elle est en même temps celle de ta patrie. »
Florita dit d'une voix étouffée.
« Oh, ma tante, quelle révélation me faites-vous là ?
Il en est d'autres encore, enfant. Tiens, dans ta maison de Kereven, on a préparé quelque chose.
Oh ?
Qui donc ? Eux, toujours, eux, les Allemands. Barwell, ce soi-disant anglais, est en réalité un Allemand. Il s'appelle Helmer, et c'est un officier de la marine impériale. Sa prétendue femme n'est autre qu'un ingénieur prussien, Spitzwacher, et leur domestique suisse ont vu le jour sur les rives de l'Oder. Florita se redressa brusquement. « Mais c'est épouvantable ce que vous m'apprenez là. Et Monsieur Mulbach savait ?»«
Naturellement. Déjà quelques années avant la mort de ton père, il avait cherché à acheter cette maison. Mais Monsieur de Valser tenait à la conserver. Devenu ton tuteur, ôtant la loi à ce soi-disant ménage anglais. Mais pourquoi ? Que font-ils là ?
Ils y ont établi une base de ravitaillement pour leurs sous-marins.
Oh, est-ce possible ?
C'est absolument certain. Les souterrains ont été en partie déblayés, aménagés avec l'aide d'ouvriers allemands amenés en automobile, et Kelmer faisait passer pour des amis qui venaient le voir. Puis les approvisionnements ont été amenés, généralement par mer. Un navire allemand les apportait. Ils se tenaient au large et à la nuit, Helmer et Spitzwacher venaient dans leurs bateaux pour piloter à travers les écueils les barques chargées. Comme on ne pouvait débarquer à la petite crique, par crainte d'être aperçu, on hissait tout ce chargement le long du roc à la pointe de Kereven. Un treuil mobile y était installé, puis disparaissait avant le matin. Tout cela me fut expliqué par Helmer lui-même, un jour que j'étais allé visiter les souterrains pendant un de mes séjours à Runesto. J'ai vu les approvisionnements, déjà considérables à ce moment-là, et qui n'ont pu que s'augmenter depuis lors. J'ai vu la salle des réparations, construite en cas d'avarie au sous-marin. Tout est éclairé à l'électricité, rien ne manque. Et comme, à cette époque, l'Allemagne croyait pouvoir bloquer les côtes de France, tout était prêt pour l'utilisation de ce point avancé de la côte. On m'a parlé aussi, ce jour-là, de grottes sous-marines, où un submersible pourrait se dérober aux recherches. Bref, mon enfant, ta vieille maison est redevenue en quelque sorte le nid de pirates qu'elle fut autrefois. Mais ceux-là ont des moyens perfectionnés terribles. Et je sais qu'ils ont déjà pu faire beaucoup de mal. Florita se tordit les mains. C'est affreux et impossible de prévenir. Ah, plus que jamais je veux partir d'ici, retrouver les Français, empêcher ces misérables de nuire. Mais comment cette Helmer et son complice peuvent-ils demeurer impunément sur le sol de France? Ils ont des papiers en règle sous des noms anglais. Puis, mon enfant, il faut bien le dire, on est si négligent en France. Et il y a aussi tant de complaisance coupable. Si tu savais tous les centres d'espionnage, petits ou grands, qui existent partout. Reichensfeld et Hilda étaient deux des principaux agents du service à Paris, et je pourrais t'en nommer d'autres que tu as connus. Ah, que ton pays a été trahi, Florita. C'est merveille qu'il ait pu se redresser, faire face avec cette résolution magnifique, briser l'élan de l'envahisseur. Mais il faut prendre garde encore, je te le dis, Florie, il y a trop d'oreilles indésirables sur cette terre de France. » Elle s'interrompit, à bout de souffle. Florita se pencha pour mettre un baiser sur le front moite. « Assez, chère tante, vous vous épuisez. » Pépita balbutia. « Il fallait que ce fût dit. Mon âme s'est un peu déchargée. Puis tu es prévenue. Maintenant vois si tu peux faire venir un prêtre. Mais je crains que ce soit impossible. Otto ne le voudrait pas. Il craindrait les révélations de mon repentir. » Je tâcherai de vous amener le curé dès demain matin, chère tante. Oui, mais Anna le verra. Je suis certaine qu'Otto l'a chargée d'une surveillance. D'elle encore il faut te méfier, Florie, car elle est toute dévouée à ceux qui te veulent du mal. Il faudrait tâcher de l'éloigner demain matin. J'y réfléchirai, tante Pépita. Reposez-vous maintenant. Madame Mulbar saisit les mains de sa nièce et plongea un regard fiévreux dans les magnifiques prunelles noires. Florie, tu ne me maîtrises pas trop. La jeune fille se pencha de nouveau pour l'embrasser. « Non, puisque vous réparez par cet aveu, ma pauvre tante, soyez en paix. Dieu vous pardonnera du moment où vous vous repentez. Oui, et je souffre tant à l'idée du mal que j'ai aidé à faire, puis au souvenir d'autre chose encore. » Elle se tut et ferma les paupières en frissonnant. Ce souvenir, c'était celui de sa jeune sœur, morte en des circonstances tragiques, morte folle après avoir subi les tortures du remords. Et, dans la faute d'Inès, dans sa trahison à l'égard du mari qu'il avait tant aimé, Pépita savait bien qu'elle-même avait la plus grande part de culpabilité, car cette âme frivole avait été conduite par elle jusqu'au bord de l'abîme. Cela, Madame Mulbar n'avait pu le dire à sa nièce, et de toutes ses fautes, c'était pourtant celle qui pesait le plus lourdement sur sa conscience. Plus d'une fois depuis 12 ans, la vision d'Inès, dressée à la pointe du promontoire, les bras étendus vers la mer furieuse, s'était présentée à son esprit. Et ce soir, elle revivait avec plus de netteté encore ce drame affreux. Mais là encore, le cerveau directeur, le conseiller du mal, avait été hautain. Il voulait les plans d'André de Valserre. Pépita, son instrument, s'était chargée de les lui procurer. Et lui, ensuite, avait endormi, aveuglé à nouveau, la conscience un instant inquiète de sa femme. Il fallait l'approche de la mort pour que cet aveuglement cessât, pour que la volonté d'échapper à l'emprise du mal fût plus forte que la faiblesse.